d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Maintenant, tout de suite, là, c'est Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. C'est la version AC 1920. Bonsoir Gilles.
Salut.
Bonsoir Yvonne.
Hello.
Ludo, votre serviteur.
Bonjour Ludo, animateur,
bonsoir. Et Claude à la technique, bien entendu. Eh bien, on va parler, donc évidemment, dans cette émission, en deuxième partie, hein, évidemment, de la réforme du Code du travail et de l'ouverture des négociations de l'UNEDIC. Voilà, donc l'un ne va pas sans l'autre, hein, même si voilà, même si le gouvernement ou le MEDEF essayent de faire passer l'un avant l'autre ou oublier l'un avant l'autre. Mais voilà, donc Gilles nous en parlera un peu en détail. On rappelle qu'il y a une manif le 9 devant le siège du MEDEF. Et il faut que vous y soyez nombreux, car le Code du travail, ça concerne tout le monde, c'est vos libertés. Mais dans une première partie d'émission, on va parler de l'Angleterre. Et notamment hein, du pourquoi, ciel, que se passe-t-il en Angleterre, le monsieur Corbyn, donc le leader travailliste très à gauche, a remporté les primaires de son parti il y a quelques mois maintenant. Et c'est une surprise, en terre du libéralisme, nous sommes tous étonnés, et Yvonne va nous en parler dans quelques instants. Eh bien voilà, donc comme je le disais, donc je suis avec Yvonne. Bonsoir Yvonne. Donc Yvonne, tu
encore
es
une fois.
Anglaise, encore une fois, c'est bien.
Bonjour.
Tu viens régulièrement faire un point de situation, un point d'étape, dirait-on, sur la situation de l'UK. Donc comme je disais en introduction, hein, Monsieur Corbyn a remporté, enfin est un leader travailliste qui a remporté les élections de son propre parti. Et donc on s'est tous dit ici que c'était quand même une sacrée surprise en termes du libéralisme. Et puis, on s'est dit aussi que finalement, c'était peut-être pas tant une surprise que ça, vu que les nouvelles qui viennent d'Angleterre sont pas fameuses, notamment ces contrats zéro heure, inédits en France, pas de durée du travail, pas de durée légale du travail, pas de travail garanti, et puis...
pas de salaire non plus.
Un salaire qui n'est pas...
Salaire de misère.
Il n'y a pas de cotisation.
Voilà, salaire de misère. C'est vraiment de misère.
Hein. Et tu sais que c'était massif, que le recours était massif. Alors justement, donc, écoute, t'es là pour nous en parler, et parce que du coup, il y a quand même un certain nombre de mouvements sociaux, qui. Alors, on va déjà faire un point sur la politique de rigueur, parce qu'il faut quand même avoir conscience que la politique de rigueur en Angleterre était quand même beaucoup plus violente qu'en France, hein, même si l'Angleterre n'est pas dans la zone euro.
C'est idéologique.
Voilà. Alors les Anglais sont des convaincus.
Oui.
Oui, les conservateurs sont au pouvoir quand même depuis 2010.
Depuis toujours, en fait.
On dirait. Parce que même les travaillistes, malheureusement, ils ont cherché à couper les budgets de santé, tout ça. Hein. Alors, oui, mais chez nous, si on a Corbyn, c'est simplement parce que les gens, ils ont ras-le-bol. Il y a une colère immense. Et puis, je vais en parler de Kobe une deuxième fois, mais pas maintenant parce que tellement de bonnes choses à dire. Il veut réformer de comble en fond.
De fond en comble.
De fond en comble. Le système britannique. Et anyway, le gros problème, c'est que si on remonte à 2010, on voit le début, justement, de le problème des Anglais, il y a eu une accélération énorme. Hein. Ouais. Donc, dans le sens, c'est que, bon, il y a eu une réforme de la sécurité sociale sur tous les hôpitaux. Alors, dans les hôpitaux, alors, ils ont viré beaucoup de personnel. Donc, le secteur service public a été vraiment touché, aussi bien la santé et l'éducation. Et par exemple, 2010, il y a une grande manifestation justement pour protéger les services de santé. Plus de 25 000 postes ont été supprimés. Alors, c'est énorme.
Alors pour bien situer, hein, c'est pas comme en France, quand on dit 25 000 postes supprimés, c'est pas le non-remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite.
Oui, c'est des licenciements.
Licenciements secs. Oui. Et puis justement, il y avait un chiffre incroyable. Un emploi dans le secteur public a été supprimé tous les 2 minutes et 18 secondes. Ouais. Ça frappe les esprits.
Alors, le statut de fonctionnaire n'existe pas vraiment en Angleterre, au sens où il n'y a pas de garantie
Je pense qu'avant, oui, mais le gros problème, c'est que... Bon, je me suis concentrée uniquement sur les détails. Oui. Mmh. Qui sont les pauvres? Qui sont les pauvres qui sont obligés de prendre les zéro contract?
D'accord.
Juste
une question à propos de l'hôpital. C'est l'hôpital public ou privé, là, dont tu parles,
public,
les 25 000
Public chez nous.
D'accord.
Voilà, et
d'accord.
Justement, j'ai voulu faire référence au fait que dans les hôpitaux actuels, en 2015, il y a une situation absolument hallucinante, que si on est obligé d'aller à l'hôpital le week-end, on risque de mourir. Le taux de mortalité le week-end sont très élevés. Alors ça explique manque de personnel, un manque de médecins, et les médecins font grève presque un jour par mois actuellement pour renégocier les conditions de travail et de salaire. Les conservateurs, évidemment, ils veulent repasser tout à la baisse.
Mmh. Ouais. D'accord. Donc, un bilan hein, de la politique, c'est 25 000 donc on a dit postes de fonctionnaires supprimés. Et puis, donc aussi une réforme des allocations sociales.
Ça, voilà, c'est le deuxième politique des partis conservateurs. Ils sont vraiment très anti-système sécurité sociale. Évidemment, ils veulent tout privatiser, mais le problème, c'est que privatiser, c'est impossible. Donc, c'est qu'on voit, à travers ces réformes qui vont être appliquées à partir d'avril cette année,
oui,
que le système va être... Il y a plus de système pour toucher les allocations. Il faut faire une demande par ici, par là. Donc, les conservateurs, quand même, ils ont tout regroupé d'un seul crédit universel, comme on dit chez nous.
Hein, une espèce d'allocation unique, en fait.
Voilà, c'est ça.
Qui regrouperait les allocations logement, les allocations familiales, plus ou moins.
Oui, ouais. Oui, mais ils ont fait quelque chose qui est absolument horrible. Ils ont fait un plafonnement. Et puis en plus, c'est basé sur revenu.
Mmh. Oui, comme en France. Hein, c'est le seul ton niveau de revenu qui permet de toucher les allocations.
C'est vrai, mais c'est nous. Ce système va réduire le revenu
qu'on pourra bénéficier.
Voilà, aux bénéficiaires justement. Ouais. Donc non seulement il y a un plafonnement des allocations, mais le revenu va être baissé. Ouais. Donc il y a une diminution pour les allocations. Et puis en plus
pour ceux qui en bénéficient.
Pour ceux qui en bénéficient. Et puis les salaires, c'est plus bas.
Voilà. Alors tu disais que c'était de moitié, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient presque, ils avaient réduit le seuil en fait pour bénéficier de ces allocations à la moitié. Et alors bizarrerie, j'allais dire
tout
un gros mot,
tout britannique.
Tout britannique, mais non, je ne sais pas si c'est tout britannique, mais c'est que et ça paraît complètement incroyable, les allocations familiales seraient limitées aux ménages qui ont seulement deux enfants et pas plus.
Donc, trois enfants, t'as plus d'allocation.
Oui, chez nous.
Pour le troisième,
Tu ne suis pas pour le troisième, c'est ça.
Et chez nous, voilà, ça, c'est nouveau. Alors, tout le monde, évidemment, je trouve ça incompréhensible. On a maintenant une situation, c'est pour la première fois que les allocations familiales seraient limitées aux familles de deux enfants maximum. Et puis, donc, c'est complètement illogique parce qu'à notre époque, on parle de population vieillissant. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Qui va travailler pour justement soutenir les retraites?
Oui, parce que c'est antinataliste, quelque sorte.
Voilà. Et puis, pire encore, hein, si les parents sont au chômage, ils seront tenus disponibles pour travailler dès que l'enfant a 2 ans. Et puis, quand l'enfant a 3 ans, il doit chercher activement de travail.
D'accord. Alors, est-ce qu'on connaît le taux de chômage en Angleterre? Je veux dire, au sens, c'est-à-dire qu'en France, on dit souvent qu'on a un taux de chômage très élevé, mais alors, grâce au zéro contrat, le taux de chômage a baissé
en
Angleterre.
Voilà. Et justement, et ça, c'est les choses qui est absolument aberrant chez nous, dans le sens que vous avez le ministère des Finances qui dit que on a résolu le problème de chômage, mais en fin de compte, hein, le syndicat Unison a justement sorti un texte qui dénonce le gouvernement pour avoir parlé de la reprise économique quand il y a plus en plus des contrats de précarité qui ne garantissent ni minimum des heures ni un revenu fixe. Donc, où est la reprise économique?
Oui. Alors, moi, j'aurais aimé savoir un petit peu comment fonctionne le salariat en Angleterre. Vous faites combien d'heures par semaine? C'est quoi le salaire moyen en Angleterre, à peu près?
Le salaire moyen, bon, il y a eu un nouveau minimum
de
salaire. Alors, ça, c'est presque 10 euros. Pas moi, c'est 9 livres 50.
De l'heure, tu veux
dire? De l'heure, oui. D'accord.
Oh, excuse-moi.
Oui, parce que le SMIC n'existait pas avant Tony Blair.
C'est ça. Bon, le salaire minimum, c'est le SMIC.
D'accord.
En fin de compte. Donc, mais le gros problème, c'est qu'il y a le salaire au Londres et puis il y a le salaire du reste du pays.
Ah, parce que Londres, c'est un truc particulier.
Particulier parce que le coût de la vie, c'est plus cher.
D'accord.
C'est pour ça.
D'accord.
Oui, quand on parle d'Angleterre, on pense qu'il y a la City et puis le reste.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Et puis en parlant de City, voilà, le blague, c'est qu'en Angleterre, il y a deux banques. Il y a la City et les banques alimentaires. Voilà. Ouais. Qui, évidemment, c'est la fréquentation est en hausse. Hein. Oui.
D'accord. Alors justement, je me permets de te poser la question parce que là, on parle du travail salarié classique, donc avec un certain nombre d'heures par semaine, donc autour de 40 heures à peu près. Mais les contrats précaires, donc tu parlais du contrat zéro heure, qu'est-ce que c'est que zéro heure? C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas du tout ou ça veut dire qu'ils travaillent pour rien? C'est quoi l'idée?
Oui, il y a une ambiguïté, oui, on ne comprend pas quand
c'est le travail qui n'est pas fixe. C'est au gré, presque.
C'est presque à la tâche, en fait. Hein.
Tâche,
c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil minimum d'horaire garanti.
C'est ça. Il n'y a pas de garantie.
C'est zéro heure de travail garantie, en fait. C'est ça. Donc, tu peux travailler 2 heures par la semaine ou 10 heures. C'est en fonction
des
besoins de l'employeur, en fait.
Besoins de l'employeur. Et puis, comment tes rapports avec le manager se placent?
Si tu as des bons rapports, ils font appel à toi.
Sinon, tu as de bon travail. Sinon,
en fait, c'est comme une vacation à la française, on va dire, service public, où on t'appelle, ou comme un intérim en quelque sorte. Hein. On t'appelle quand on a besoin de toi, quoi. Sauf que t'as pas les charges sociales qui sont payées.
Exact. Et puis c'est un petit peu comme le travailleur qui fait la manche. Il demande le travail. Il est dans une position de demandeur. Hein. Parce que, bon, il n'y a pas une sorte de système intermédiaire. Il existe des agency workers, hein, les travailleurs qui passent par les sociétés en intérim. Ça existe.
Oui.
Mais là, les zéro contracts, zéro heure, c'est pernicieux, c'est terrible. Hein.
Alors, tu me disais justement, ces contrats ont eu vraiment un énorme succès. Hein. Je crois que tu parlais de 500 000 dans la fonction publique, quelque chose comme ça, c'est un recours massif, non? Un demi-million,
actuellement, le chiffre pour les zéro contracts, le chiffre, c'est une estimation. Hein. 2014, c'est 1,4 million.
D'accord, tout compris, privé, public.
Il ne faut pas parler de public, hein, c'est privé. Ça, c'est quasiment
privé. Des contrats qui sont réservés aux...
Pas forcément, parce qu'il y a de plus en plus des administrations, hein, les mairies, des petites communes, etc.
Oui, les administrations territoriales.
Qui en profitent. Mais là, on va parler de boycott workfare un peu plus tard.
Et alors, du coup, finalement, qui sont les premières victimes de ces workfare? Parce que j'imagine qu'il y a les retraités qui veulent compléter leur retraite, il y a les jeunes, peut-être, qui doivent.
On est dans une situation où vous êtes où les gens les plus touchés sont les plus preneurs des zéro contrat. Donc, les étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce que beaucoup qui n'ont pas de parents fortunés se trouvent avec 27 000 euros pour 3 années d'études universitaires. Et les femmes, pourquoi les femmes? Parce que beaucoup de femmes ont été virées, 25 000 quand même. Et puis aussi les femmes, pour diverses raisons, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a une personne à charge, etc., ne peut pas travailler à plein temps.
Les femmes célibataires.
Et puis après, une chose franchement qui est dégueulasse, c'est les retraités. Les retraités, il y a énormément de retraités qui n'ont pas suffisamment de l'argent pour vivre mensuellement. Hein. Les retraites est bas, beaucoup assez bas parce qu'ils ont eu des bas salaires, etc. Donc, ils ne peuvent pas survivre. Et puis, tout a augmenté. Les loyers, les charges, surtout l'électricité, etc. Donc, ils vivent vraiment une situation catastrophique. Ils sont obligés de trouver un emploi, zéro contract.
Alors, juste avant la chanson, si tu me permets, Ludo.
Non, non.
Une petite question. Je vais prendre un exemple pour que les gens comprennent bien et que moi-même, je comprenne bien aussi. C'est, imagine que je suis, moi, un chômeur anglais.
Oui.
Et on me propose donc un travail pour laver les carreaux, une heure dans la semaine, à 9,82 €.
Oui, mais vous ne l'auriez pas.
Et après, une autre heure, un autre moment pour laver autre chose. Bon, est-ce que entre ces deux moments où je travaille, j'ai la possibilité d'avoir... Est-ce qu'on va me donner de l'argent? Est-ce qu'il y a un système assez dit?
Non,
un système,
non.
D'accord.
Parce que les zéro contrats, c'est sans droit. Si vous avez un contrat établi, un bon du fond, là, oui. Mais vous touchez le chômage uniquement pour 6 mois, c'est tout. Hein.
D'accord. Alors, on va revenir sur le Job Center tout à l'heure, juste après une petite pause. Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Mode d'emploi, l'émission des chômeurs avec l'équipe AC 19.1. Oui. Bonsoir Gilles.
Salut.
Eh bien, on est ce soir avec Yvonne qui nous parle de l'Angleterre et particulièrement des zéro contrats. Donc ces contrats qui font fureur, tu me disais, fureur, et qui s'apparentent un peu à du travail, forcé peut-être. Je ne sais pas si le terme est bien choisi. Enfin, en tout cas, les entreprises ne crachent pas dessus, ont un recours massif et finalement sont tentées globalement de remplacer leurs anciens employés par ces travailleurs hyper précaires, on va dire.
Oh oui.
Alors tu nous parlais de sport, par exemple d'exemple de Sport Direct qui est un grand magasin de vêtements. Oui.
Alors Sport Direct c'est incroyable comme structure. Hein. C'est coté dans le 440, donc ils ont pas mal d'argent. Sur 23 000 salariés. 20 000, je pense, maximum, hein, sont des salaires précaires sur zéro contrat. Alors, les conditions sont tellement draconiennes que les gens, ils ont peur de faire quoi que ce soit. Ils ont peur de parler, de porter plainte. Ils acceptent n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un style Walmart où ils matent au maximum les salariés.
Walmart, c'est la fameuse entreprise américaine qui a été championne du monde du travail précaire et temporaire aux États-Unis. Et qui a d'ailleurs construit sa fortune là-dessus.
Là-dessus, quoi, absolument.
On peut dire en quelque sorte.
Donc, et puis, une autre chose par rapport avec droit Sport Direct, hein, c'est le fait que ils sont vraiment... à la une maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des procès qui sont en cours. Ben justement, c'est pour les conditions de travail. C'est en cours, donc je n'ai pas de nouvelles. Mm-hmm. Mais certainement pour te donner une idée de quel genre de société il est, c'est le fait que le BBC a fait une investigation. Et puis, ils ont calculé qu'il y avait 76 ambulances dans 2 ans, 2013, 2014, qui ont visité un site. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement des appels, là. Des appels,
Des salariés, appels, visiblement.
Des salariés, oui. Soi-disant, hein.
Ouais, des soi-disant salariés.
Oui, soi-disant, hein. Donc, pour des maladies de toutes sortes, hein. Et puis, il paraît que le personnel, ils ont trop peu de prendre le congé de maladie à cause de perdre le job. Il y avait aussi une histoire absolument hallucinante que les femmes, il y avait des femmes enceintes, bien sûr. Il y a même une femme enceinte qui a donné naissance dans une toilette.
Mais enfin, c'est incroyable, c'est-à-dire se qu'elle place, a préféré aller oui. travailler avec son enfant plutôt que d'aller oui. d'aller à la maternité ce jour-là.
Oui, quoi. Le c'est problème, voilà, peut-être elle a pas compris qu'elle va donner naissance sur les champs comme ça, mais voilà, ça c'est un exemple que les femmes enceintes
ont peur de perdre leur travail, en fait.
On perd le peu de travail qu'ils ont. Et puis qui reste. Alors là, c'est incroyable. Et puis il y a même une histoire d'un monsieur qui avait des problèmes. Et lui, il est un immigré qui a eu peur, évidemment, de perdre son job pour une semaine ou je ne sais pas quoi. Il a eu peur de quitter son job. Et puis il a été malade. Et puis bon, il a eu une crise cardiaque. Hein.
Ouais. Voilà. Bon, c'est le pays du...
Oui, ça, on arrive là avec ces gens de contraintes.
Alors, tu disais quand même que le mécontentement donc grondait, hein, qu'il y avait de plus en plus de mouvements sociaux, de choses qu'on croyait un peu mortes au Royaume-Uni.
Oui.
Donc, excuse-moi, c'est un préjugé, mais en tout cas, je veux dire, il y a la grogne, c'est à la fois du côté des étudiants, parce que les frais d'inscription sont quand même très élevés.
27 000
euros
pour 3 ans d'études.
Voilà, sachant que c'est...
Et
ouais.
puis en plus, s'il veut être dans une situation de ne pas être obligé de rembourser sur le champ, il peut toucher par an que 21 000. Donc, pour être exonéré pour une période hein, de remboursement.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent gagner que 21 000 euros par
voilà.
an, c'est ça ?
S'ils gagnent plus, ils vont être taxés.
D'accord.
Ils vont être obligés. Donc, le gros problème avec ces systèmes, c'est que les étudiants se retrouvent surendettés. Ils ont les listes de surendettement. Ils ne peuvent pas acheter une maison, ni une voiture, ni quoi que ce soit.
En même temps, quand tu es étudiant, acheter une voiture ou une maison,
mais c'est
je ne sais pas.
Après.
Oui, voilà. Ah, c'est après. Ils payent déjà.
Ils sont obligés. Voilà, c'est ça. Ils sont obligés de simplement gagner uniquement 21 000. S'ils dépassent 21 000, tu suis taxé. Et d'accord. puis en plus, ils sont sur une liste de surendettement. C'est que les étudiants, évidemment, n'en savaient pas.
Oui, donc, j'allais dire que c'est un phénomène typiquement anglo-saxon où finalement, ce système de crédit pour les études, en fait, est redoutable pour
c'est
les.
C'est redoutable.
Alors, c'est récent,
2010.
Ça fait partie des réformes des Tories.
Oui, voilà, les Tories. Ouais.
Alors, tu nous parlais aussi donc du fait que, effectivement, il y avait des mobilisations de plus en plus importantes, en fait, contre ces zéro contrats, et notamment grâce à l'initiative d'un site qui s'appelle Boycott Workfare. Alors, je ne saurais pas traduire exactement Workfare en français. Hein. C'est assistance au travail.
C'est boycott les travaux précaires. Hein.
D'accord.
Surtout les zéro contract. Hein. Alors, cette site Boycott Workfare, donc c'est B-O-Y-C-O-2-T, Workfare, W-O-R-K, F-A-R-E. Alors, il faut absolument le voir parce que, ou visiter, c'est vraiment bien parce que, justement, c'est un site qui donne des conseils, surtout donne des conseils de toutes sortes, mais surtout qui liste des entreprises, les administrations, donc les régions, tout ça, les associations caritatives qui acceptent de ne pas embaucher ce contrat de zéro, donc qui paye un salaire
normal,
correct. Hein. Donc, les sites qui... les entreprises qui embauchent les gens sur les zéro contrat. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils vous donnent des conseils. Donc, nous, on a une Freedom of Information Act. Donc, c'est une administration... donc on peut demander
public
voilà.
Donc tu peux demander des informations par rapport à la légalité de
exact,
des contrats.
Tu peux demander des informations par rapport avec une société, administration, les plans, etc. Et puis ça vous donne une idée combien de gens sont embauchés sur les contrats.
D'accord, c'est une espèce de transparence par rapport aux pratiques de l'entreprise en fait.
Voilà.
Hein, c'est-à-dire que ce que fait une entreprise n'est pas confidentiel.
Voilà, c'est ça. C'est briser le code
briser
de confidentialité.
Le silence, en fait.
Voilà, oui.
D'accord. Et ça c'est une administration publique.
Oui.
D'accord.
Oui, qui vous permet.
Qui permet
voilà.
de le faire.
Donc, ce Boycott Workfare, il vous donne un formulaire qu'on peut remplir, etc., pour demander des informations. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Ils dénoncent aussi les types d'abus. Donc
les abus.
Types,
parce que c'est possible d'avoir des abus malgré que ce soit des zéro contrats. Donc ça c'est, alors ça, est-ce que ça veut dire que par exemple les zéro contrats, on n'est pas censé remplacer les salariés? Ça pourrait être ça le type d'abus, les salariés qui ne sont pas sous zéro contrat,
c'est... Oui, voilà, c'est ça. C'est le fait que dans ce supermarché, donc les supermarchés, évidemment, ils veulent à tout prix embaucher les gens au prix bas. Donc vous avez des jeunes, là on parle surtout des jeunes qui sont embauchés pour remplir des étagères, hein, etc. Et puis, il y avait un supermarché, donc je n'ai pas trouvé le nom, qui a cherché à transformer cette jeune dans une caissière, remplacer les caissiers. S'ils avaient réussi, ce supermarché, évidemment, il n'y aura plus de caissiers.
Oui,
mais heureusement, oui, ça va de soi. Hein.
Ah oui.
Heureusement, les syndics ont bloqué ces tentatives. Hein.
Les syndicats,
les syndicats, oui. Alors, ça montre à quel point ces genres de contrats sont flous. Donc, il manque une définition.
Au cadre juridique.
Qui détaille toutes les normes et les conditions.
Dans quelle mesure on peut avoir recours à ce type de contrat, vu le nombre d'abus.
Oui, voilà. Et puis, il y a aussi une autre chose, toujours par rapport avec l'administration, c'est le fait que il y avait une étude qui a été publiée en 2014 qui dit que les administrations régionales ont profité d'un demi-million des zéro contrats. Oui, oui. Et
c'est
puis,
terrible,
en plus, une autre histoire vraiment farfelue qui a fait scandale, c'est que il y avait une municipalité, une autre d'Angleterre, hein, qui a voulu virer tous les jardiniers de l'espace public pour les remplacer avec les zéro contrats. Alors, ce qui s'est passé, bon, il y avait une lutte, et puis, heureusement, ils ont retrouvé le poste.
Ah, quand même. Donc c'est possible quand même. Hein,
mais il faut lutter, il faut lutter. Là, avec Sport Direct, bon, on est dans une situation où on fait un procès juridique.
D'accord. Oui, alors c'est ce que tu me disais, c'est qu'en Angleterre, ce qui est possible, c'est la class action, c'est-à-dire l'action en groupe.
Non, voilà, oui. Une class action, c'est ça qu'il nous faut pour justement contre-éclairer.
C'est l'appel à la lutte collective aussi. Enfin,
oui, le groupe d'action, oui. Lutte collective, mais là, on les traîne devant la justice.
C'est une plainte collective.
Oui, une plainte collective, c'est ça.
Il faut vraiment que les gens se regroupent.
Mais en Angleterre, il y a bien un code du travail quand même qui doit... Non, il n'y a pas de code du travail.
Mais visiblement, c'est une dérogation
de code. On se demande.
Il paraît qu'il est plus léger qu'en France. Voilà, les techniciens nous font un signe, il n'est pas épais. Non, alors, bon, je tiens
deux pages, il fait deux pages.
Je tiens tout à dire que le code du travail français a un équivalent en poids et en nombre de faits que le code du travail allemand, anglais, je ne sais pas,
oui.
Mais allemand, contrairement à la propagande, et on en parlera tout à l'heure. Donc oui, il y avait quand même un code du travail en Angleterre, donc, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des coups de canif, un peu comme ils essayent de faire en France. Hein.
Coups de canif, mais c'est une hache.
C'est une hache, oui, pardon.
Non, oui, franchement, oui. Moi, non, c'est...
Ah ben, il fait bon de vivre en Angleterre, alors.
Absolument. Si tu veux t'enrichir sur les dos des gens, il faut aller là-bas, mais n'oublie pas de... Il ne faut pas embaucher les retraités parce qu'ils risquent d'avoir des crises cardiaques.
D'accord. Eh bien, écoute, donc, en tout cas, on a retenu l'adresse du site, hein, c'est boycott
workfare.
Alors, c'est quoi, c'est point org, d'accord, point org. Donc, bon, évidemment, c'est en anglais, mais enfin, voilà, je pense que tout un chacun peut s'en sortir. Donc, on parlera évidemment d'Angleterre, mais on va surtout reparler aussi des États-Unis, hein, plus tard.
C'est pas mal non plus, les États-Unis, c'est intéressant aussi.
Voilà.
Oui, j'imagine.
Voilà, oui, non, puisque c'est vrai qu'aux États-Unis aussi, on a un candidat de la gauche du Parti démocrate,
oui.
et donc c'est étrange l'espèce
Trump.
De similitude.
Oui. Et justement, Trump, il y a un jeu de mots là, parce que Trump, en anglais, ça veut dire se vanter, etc.
Ouais.
Et puis en français, c'est se tromper. Erreur.
D'accord.
C'est génial.
Voilà. Bon, et donc on en reparlera. Donc tu es la bienvenue ici, Yvonne.
Merci, Yvonne.
Voilà. Merci d'être venue.
Bon, et.
À bientôt. Oh, Dilly Bo, Dilly, where you been? Said she was a bird. My pretty baby said she was a bird. Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et bien donc dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'AC. C'est l'équipe d'AC ce soir en tout cas. Donc je suis avec Gilles. Bonsoir Gilles. Claude Allais technique. Moi-même Ludo au micro avec deux invités spéciaux. on recevait Yvonne tout à l'heure hein, qui nous parlait de l'Angleterre. Et donc là on va parler du code du travail.
C'est intéressant
alors,
de parler.
Voilà. Alors moi, j'avais regardé hein, comme oui, ça le titre sur le titre, par exemple sur le site du Monde diplomatique, le patronat et Nicolas Sarkozy en rêvaient, Monsieur François Hollande l'a fait.
Ben c'est exact. C'est-à-dire que là, on a eu le droit depuis 58, depuis la Ve République, on a une gauche qui a fait une politique la plus droitière de la Ve République en fait.
Oui.
C'est-à-dire que comme on le savait plus ou moins, on savait très bien que le PS n'avait jamais été à gauche réellement. Hein. Mais là, on en a la preuve par neuf.
Si, entre 1980 et 1983.
Exact. Mais là, on en a la preuve par neuf parce qu'en fait, ils s'attaquent non seulement au code du travail, mais ils sont attaqués également au prud'homme, ils s'attaquent aux heures à faire par le nombre d'heures par semaine, le nombre de jours de travail par an, etc., etc. Donc là, on a un ensemble de mesures qui sont complètement, à mon avis, que le MEDEF a certainement adressé à Matignon, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à tout ce qu'a dit la presse, c'est pas la loi El Khomri, c'est la loi Valls. Parce que El Khomri a reçu la loi complètement faite dans son bureau, et comme c'était la ministre du Travail, elle l'a signée.
Alors ça, c'est selon le Canard. Hein,
c'est selon le Canard enchaîné, voilà. Et moi, je pense que le Canard enchaîné est bien informé, effectivement. Donc elle a signé ce contrat, cette loi, peut-être en y apportant des modifications, et il se trouve qu'aujourd'hui, on dit qu'elle est en maladie parce qu'elle a eu un problème de santé.
Elle est tombée.
Voilà, c'est ce qu'on dit. Bon, mais il paraît. Donc il y a un de ses conseillers qui a dit qu'en fait elle n'était pas vraiment d'accord avec le texte. Ça, selon toujours le Canard enchaîné. Bon.
Mais c'est-à-dire qu'elle essuie les plâtres. On a un peu l'impression que les ministres du travail en ce moment, c'est ceux qu'on envoie au charbon et qui se font griller en annonçant les chiffres du chômage, par exemple. Alors c'est le sale boulot en quelque sorte. Alors moi j'avais lu que le projet de loi, en fait, hein, je crois, s'appelait projet pour sécuriser projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Hein. Donc ça veut tout dire. Hein.
Tout à fait. Donc là, c'est surtout pour les entreprises hein, et moins pour les salariés, ça c'est clair.
Donc, effectivement, donc bon, grosso modo, c'est une attaque en règle, hein, en quelque sorte, on va dire ça. Donc, alors, on peut peut-être commencer par la durée légale du travail. Donc, jusqu'à maintenant, c'était
alors,
48 heures.
Selon l'OIT, donc l'Office international du travail, c'est 48 heures, effectivement. Et il y a à peu près 14 États qui ont une base de 48 heures de travail par semaine.
Maximum.
Donc. Maximal, hein, c'est un maximum. Il faut savoir que sur ces 48 heures, le travail, ça c'est sur ces 48 heures de la loi, en fait, les gens travaillent effectivement réellement que 41h30.
D'accord.
Effectivement. Hein. Le reste est repris comme tout ce qui est abstrainte.
Donc en moyenne européenne.
En moyenne européenne, hein, 41h30 en réel.
C'est pas mal.
Oui. Ouais, et pour les pays comme le nôtre qui font entre 38 heures et 40 heures, parce qu'en fait c'est 35 heures la base de la base légale, hein. Mais en fait c'est plutôt 38 hein, en général, en moyenne.
D'accord. Bon,
38 heures et 40 heures, le travail effectif réel est de 41h55, c'est-à-dire que en travaillant moins dans la loi, on travaille réellement plus que les pays qui ont des heures de travail.
Tu veux dire qu'en fait on est déclaré 38 heures, mais en réalité on travaille plutôt 41 heures, c'est ça l'idée?
C'est ça, 41h55.
C'est-à-dire en comptant pas les horaires, par exemple des salariés qui travailleraient plus sans se voir payer les heures supplémentaires. Quoi.
Voilà. Donc nous on a 35 heures effectives dans la loi,
beaucoup de salariés les dépassent, voilà. ce qu'on sait.
Que si demain on allait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on faisait une semaine à 4 jours, c'est-à-dire 32 heures,
on travaillerait
dans
plus.
La loi, on travaillerait peut-être plus.
D'accord. Oui, bien sûr.
C'est une moyenne entre les cadres et les employés. Les cadres travaillent plus et les employés aux 35 ou 39 heures.
Alors, il faut préciser évidemment qu'en fait, quand on parle de 35-38 heures, c'est, bien entendu, les cadres sont souvent au forfait jour et qu'effectivement, le forfait jour qui donne un nombre de jours dans l'année, en réalité, permet tous les dépassements horaires possibles. Alors, là, la réforme, que dit le texte de
Alors,
de
la réforme dit qu'effectivement, on va sur les 48 heures, hein, 48 heures, voire 60 heures par accord de branche ou par accord entreprise.
À titre exceptionnel, j'imagine.
À titre exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut prouver qu'effectivement, l'entreprise est en difficulté et qu'on demande un effort supplémentaire aux salariés pour qu'ils fassent plus d'heures dans la semaine. Okay. En considérant qu'effectivement, à partir de la 36e heure de travail, on a une heure supplémentaire avec une base de 10%. 10% supplémentaire de paye.
Ça, c'était 25 auparavant, non?
Avant, c'était 25.
D'accord, donc le nouveau projet de loi, ça serait 10%.
10% et 25. Et à partir de la 48e heure, enfin de la 49e heure, ce sera 25%.
Ah oui, oui, donc oui.
C'est-à-dire qu'on va stresser les salariés pour qu'ils fassent énormément d'heures pour avoir effectivement un salaire.
Finalement, je suis en train de me dire que la réforme de Sarkozy sur les heures défiscalisées, c'était mieux, quoi.
Presque.
Les heures supplémentaires défiscalisées, quelque part. Alors, j'avais aussi, vu ça, hein, c'est-à-dire que donc 48 heures, ça c'est la durée maximale, mais c'était pendant, je crois, 10 à 12 semaines.
Non, alors, c'est jusqu'à aujourd'hui, on faisait 12 semaines.
D'accord.
Mais là, ce sera jusqu'à 16 semaines.
D'accord. Et la durée obligatoire, dans ce cas-là, baissera. Ce sera 46 heures au lieu de
46 ou 48, effectivement.
Donc, sur 16 semaines.
Hein, sur 16 semaines.
Oui, ce qui représente 4 mois, oui, c'est énorme.
4 mois,
donc,
c'est énorme.
4 mois, 48 heures. Donc, mais c'est dingue parce qu'on se demande à lire ce texte. Il y a vraiment des secteurs, qui ont besoin, on va dire, 4 mois dans l'année de faire travailler 48 heures leurs salariés. Pour ensuite, parce qu'on imagine que ces heures font l'objet d'une compensation. Yvonne ?
Oui, justement, je veux intervenir, simplement parce que c'est toujours le même secteur, c'est les restaurations, tourisme et les supermarchés. Et c'est eux, évidemment, qui ont besoin de manœuvres bon marché et disponibles.
Oui, tout à fait, la restauration où effectivement on peut faire des heures à non plus finir, entre autres.
Ouais. Il y a un autre pan qui est intéressant, qui reste dans les heures de travail, enfin qui reste dans le temps travaillé dans l'année, c'est le forfait jour. C'est-à-dire que sur une année, on demande à un salarié de travailler un certain nombre de jours pour toucher son salaire, ce qui est logique.
Et le reste du temps, c'est des vacances plus RTT.
C'est ça. Donc aujourd'hui, on est, nous, à 5 semaines de congés payés vacances, plus 11 jours de moyenne de RTT en moyenne. Hein.
Oui. 11 jours. Oui, avec beaucoup de variabilité entre ceux qui ne bénéficient pas de RTT
RTT pour les cadres, bien sûr.
RTT pour, non, salariés, tout ça.
Ça dépend des secteurs. Secteurs
d'activité.
Voilà, tout à fait.
Et des conventions collectives. Dans l'automobile, elles sont favorables aux employés par rapport au textile, par exemple.
Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est-à-dire que dans le privé, hein, il arrive bien souvent qu'en fait on interdise les heures que les employés soient effectivement aux 38 heures et qu'on leur interdise les heures supplémentaires
35,
et que 35 voilà, 35 pardon, oui, 35 effectives et que du coup, il n'y ait pas de RTT.
Oui. Alors sur le forfait jour, je reviens là-dessus. Mmh. Aujourd'hui, on travaille en moyenne dans les entreprises françaises, publiques ou privées, hein. On travaille par an, on travaille à peu près 218 jours par an. Et dans la loi qui est en discussion aujourd'hui, qui va bientôt être en discussion au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est 275 jours par an. C'est-à-dire qu'il y a un surplus de 50 jours à peu près de travail en plus.
C'est énorme.
Ce qui est énorme.
C'est énorme. 50 jours, ça fait
Un mois et demi, oui.
C'est incroyable. Ouais, ouais. Donc on va demander. Donc c'est une remise en cause des 35 heures.
C'est une remise aussi.
Enfin des RTT.
Oui.
De...
Et donc c'est négociable sur les congés. Par exemple, comme. Sur l'année, tu as un certain nombre de jours de congés, donc tu feras plus de jours de travail, mais tu auras moins de congés.
Bien sûr. Par contre,
tu auras une compensation financière peut-être.
D'accord. Ce qui est pas certain. Donc ça, c'est laissé à l'appréciation de l'accord, dans l'entreprise,
Tout à fait.
D'accord. Alors, donc c'est carrément une remise en cause de la durée légale du travail, finalement.
Absolument. Tout à fait.
Absolument. D'accord. Ouais. Bon, super.
Oui, oui. Il y a d'autres choses. Ce qu'il faut voir, c'est que là, par exemple, il y a, pour rapport au prud'homme, par exemple, c'est donc ces collèges d'avocats ou de juges salariés patronaux qui vont délibérer pour donner raison ou bien au salarié ou bien à l'entrepreneur dans le cadre d'un licenciement abusif. En fait, c'est 9 juges, c'est 3 juges patrons, 3 juges salariés, plus éventuellement 3 syndicalistes qui sont pas juges, qui sont juste là pour défendre éventuellement un salarié ou un patron, hein, on ne sait pas. Et ben là, par exemple, la réforme de la carte judiciaire en 2008, c'est un tiers des conseils de prud'hommes en moins. C'est-à-dire qu'il y a un conseil qui a disparu sur 3 conseils.
Oui, sachant que les délais aux prud'hommes sont déjà énormes.
Ah oui,
c'est
oui,
minimum
c'est...
2 ans de,
oui,
d'attente.
C'est
Et sachant qu'en plus, souvent, enfin, si je m'ai compris, c'est que souvent il y a un appel de beaucoup de décisions prud'hommales qui font qu'en définitive, d'abord ça allonge les délais, et qu'en définitive c'est un juge professionnel qui finit par dire le droit en quelque sorte.
Bien sûr, Alors, il faut savoir que les prud'hommes sont surchargés, hein, qu'il faut effectivement attendre 14 mois avant d'avoir une délibération pour défendre ces... Voilà. Et que c'est vraiment très compliqué parce que là, si on retire... déjà, la ligne prud'homme en 2008, il y en avait un dans moins. Mais là, on va casser encore. C'est-à-dire qu'on va encore casser les prud'hommes encore plus dans la loi en question.
Okay. Alors, peut-être que...
Par exemple, il y a 10 000 représentants des salariés dans le cadre des prud'hommes qui disparaissent tous les ans.
Ah oui. 10 000 représentants des salariés. Et pourquoi des salariés? Parce que.
Alors ça, là, j'ai pas trouvé la réponse, mais je la trouverai pour la prochaine émission qu'on fera sur le monde du travail, hein, si on en fait une, sur justement la loi Amcomri, hein, enfin la loi Valls, on va dire. Il y a 10 000, il y a donc 10 000 juges, des salariés, pas des patrons, hein, des salariés qui disparaissent tous les ans.
D'accord.
Alors peut-être pour faute de moyens, les gens qui partent à la retraite qui ne sont pas remplacés, ça on ne sait pas trop. Hein. Donc ça c'est quand même assez important.
D'accord. Alors écoute, je propose de faire une dernière pause musicale et puis que tu vas pouvoir poursuivre parce que bon, c'est une loi qui est quand même assez dense et assez complète et il y a encore beaucoup de choses à dire. Bonsoir, c'était Lisa Ekdahl et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'émission Mode d'emploi avec l'équipe d'AC ce soir. Donc on était en train de parler du Code du Travail avec Gilles. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Bonsoir Yvonne.
Bonsoir.
Et bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Et une voix nouvelle qui a fait son apparition dans l'émission. Alors du coup, oui, on était resté sur l'allongement justement de la durée du travail finalement.
En termes d'heures et en termes de jours dans l'année, oui. Voilà.
Et donc effectivement, il y a aussi, enfin bon, ce qu'on dénonçait depuis un moment à ce micro, c'est le bouleversement de la hiérarchie des normes. Hein. C'est-à-dire, je m'explique, au-dessus de tout, il y a la loi normalement, donc le code du travail.
Tout à fait.
Or désormais, dans certains cas, les accords de branche ou voir les accords d'entreprise
supérieurs à la loi, au-dessus de la loi,
dépasser la loi. Oui, Gilles.
Oui, mais ça c'est dans le cadre de justifications qui sont raisonnables, c'est-à-dire qu'effectivement, si l'entreprise est en difficulté, elle peut effectivement demander en accord d'entreprise avec les syndicats s'il y a plus de 50 salariés dans l'entreprise, donc faire cet accord avec les syndicats. Si les syndicats ne sont pas représentés parce qu'il y a moins de 50 personnes, c'est 30% du syndicat représenté dans l'entreprise. Il y a peut-être un syndicat quand même, voilà. Ou alors c'est une consultation référendaire, qui permettra même à une minorité de avoir gain de cause.
Une minorité?
Oui, c'est-à-dire que si, par exemple, on prend une entreprise de moins de 50 personnes, le patron décide de mettre tout le monde à 60 heures. Et que la minorité, donc il fait une consultation, parce qu'il n'a pas de syndicat, il fait une consultation auprès des employés. Si les employés refusent, il ne pourra pas faire 60 heures. Si les salariés acceptent, même s'ils sont minoritaires, parce que les autres n'ont pas à voter ou s'en foutent.
Ah, tu veux dire, c'est-à-dire que la participation
donc il n'y a pas de seuil de participation. Voilà, si le seuil, c'est 30%.
30% de participation.
Voilà, 30%
de
participation.
En même temps, oui.
Donc c'est 3 personnes sur 10, en fait. Hein.
Donc il y a intérêt à ce que ce soit vraiment bien organisé, qu'il y ait de la publicité, et puis surtout que ce soit sensible. Alors justement, sur quoi peut négocier le patron? Est-ce qu'il peut négocier la durée du travail?
Alors déjà, le patron, normalement, dans le contrat de travail à l'embauche, il doit spécifier dans son contrat, ça c'est une nouveauté, effectivement, toute la partie négociable dans le cadre du temps de travail, c'est-à-dire, par exemple, il rajoute un article dans le contrat.
Il a plus de latitude, en fait, pour prévenir au préalable le salarié que le contrat est modifiable, en fait,
tout à fait.
Par décision collective dans l'entreprise.
Voilà, par exemple, il peut rajouter dans le contrat de travail un alinéa disant que, effectivement, dans le cadre de son emploi, le salarié, avec l'accord de son patron, l'accord de l'entreprise, avec les syndicats, peut travailler plus ou moins, ou ne pas avoir de vacances, enfin moins de vacances ou plus de vacances, enfin.
Oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, les gens qui vont signer un contrat ou qui vont offrir leur service, donc ça sera variable d'une entreprise à une autre. Ils n'auront pas forcément les mêmes droits d'une entreprise à une autre. C'est ça que ça veut dire
force,
à terme.
C'est exactement ça. Il n'y a plus force de loi. C'est-à-dire que la loi est censée mettre tout le monde à égalité. On est tous égaux devant la loi, a priori. Là, c'est plus le cas. Puisque là, tout est négociable dans l'entreprise.
D'accord.
Et chaque entreprise, même du même secteur, peut, si par exemple une entreprise genre Coca-Cola, le Coca-Cola France fait un truc et Coca-Cola Norvège fera autre chose selon ses besoins sur le terrain.
D'accord. Donc alors par exemple, est-ce que si une entreprise négocie avec ses salariés de travailler le dimanche,
ils le feront.
Ça sera possible. A priori.
Oui.
D'accord. Si à partir du moment où les salariés sont d'accord, ça sera possible.
Exactement.
Donc pareil pour la durée du travail.
Voilà. Le problème c'est que dans le cas où on demande aux gens de travailler le dimanche, si 30% des gens dans l'entreprise disent oui.
Oui.
Ceux qui ne voulaient pas, c'est-à-dire les 70% qui restent, qui n'ont pas voté, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent voter aussi, eux seront forcés de travailler le dimanche.
Oui, enfin, c'est-à-dire que oui, bon, d'accord. Oui, mais enfin, t'es sûr que c'est 30% des salariés qui doivent
ouais,
qui doivent.
C'est ce que j'ai lu. D'accord, okay, vérifier, d'accord, mais,
okay. Ouais. Ok. Alors du coup, donc il y a quand même une dernière chose qui sache, entre autres. Oui, parce que j'imagine qu'on va pouvoir aussi négocier le salaire, bien entendu, collectivement, travailler plus, mais pas sans augmentation de salaire, voire baisser le salaire. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que de façon collective, on va pouvoir revenir sur le contrat et baisser le salaire?
Non, parce que quand on dit contrat négociable, ça veut dire on peut demander à un employé, dans le cadre du contrat de travail, d'accepter de toucher moins.
Une baisse de salaire.
S'il y a si l'entreprise est en difficulté. C'est-à-dire qu'on lui dit, si vous acceptez pas de toucher moins, l'entreprise ferme ses portes. D'accord. C'est-à-dire le chantage au chômage.
Ok. Simplement. Alors justement, donc on parlait de chômage. Et ben voilà, alors justement, dans le cadre du licenciement, alors la loi fait sécuriser pour l'employeur le licenciement. C'est comme ça que c'est formulé, hein. C'est-à-dire que, grosso modo, protéger le patron du recours devant le tribunal en plafonnant les indemnités.
Voilà, il y a un plafond, effectivement, des indemnités, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé 10 ans dans une entreprise, il touche l'équivalent de 1 mois par année d'ancienneté, l'équivalent d'un mois d'ancienneté en moyenne, hein. Sauf si c'est une faute grave, et là, il y a des dommages à terre en plus, hein. Mais c'est à peu près un mois, c'est pas un dixième de mois, je sais plus. Enfin, faut vérifier. Il me semblait que c'était un mois.
Par ancienneté, tu veux dire par année, année d'ancienneté, d'accord.
Mais là, ça sera plafonné.
Ok.
Alors, il y a une chose à dire quand même, c'est que, pour la petite histoire, c'est que Monsieur Hollande a invité Monsieur Valls dimanche à manger. C'est très intéressant comme information. Et qu'ils ont renégocié. C'est-à-dire que maintenant, Valls est obligé d'accepter une négociation avec les partenaires sociaux sur une période de 2 mois qui vont suivre, là, à partir de maintenant, pour renégocier le contrat, ce contrat une connerie, là. Parce qu'en fait, lui, Valls était au départ partisan de passer ça avec la force, c'est-à-dire avec le 49-3 devant les assemblées, comme d'habitude. Donc c'était un peu autoritaire. Donc Valls, revenant de Polynésie ou de je sais pas où, a considéré qu'il fallait quand même négocier avant. Mais moi, ce que je pense, c'est que quand même, une promesse de campagne de M. Valls, si tu te souviens bien, c'était de dire, au moment où il voulait se présenter en tant que président de la République, il disait que lui, il était pour la négociation avant de faire les lois. Mais la loi est tombée là, du haut. Il n'y a pas eu de négociation. Ou alors peut-être en sous-main, mais on ne sait pas trop. En tout cas, il y a certainement une négociation avec le MEDEF qui a fait pression sur le gouvernement pour passer cela. Et là, ils sont obligés de revenir en arrière. Donc, ça m'étonne quand même qu'il ait fait une promesse. Donc, aucune promesse n'a été tenue par Monsieur Hollande, de toute façon. Il a fait une promesse comme quoi il partirait sur toute loi sociale liée au travail avec les partenaires sociaux pour négocier tout ça avant de faire la loi. Là, il a fait la loi. Enfin, Valls a fait la loi du haut. C'est tombé de haut et maintenant, voilà. Maintenant, d'accord. Il est obligé de négocier.
Ouais. Oui, non, on se demande si c'est pas une stratégie, c'est-à-dire d'aller au pire, de laisser fuiter dans la presse pour ensuite aller décorer le texte, etc., etc.
Tout à fait.
Bon, donc, cette émission va bientôt se terminer. Donc, je vous rappelle qu'on va en reparler puisqu'il va y avoir une mobilisation là-dessus. Parce qu'évidemment, on peut considérer que ça risque peut-être de mobiliser un peu tout le monde contre ce projet de loi, tous les syndicats. Donc, c'est le 9 mars.
Absolument.
C'est devant le siège du MEDEF et je crois que c'est à 14h. Hein,
14h ou 14h30, il me semble.
14h. Et voilà. Et donc, il faut que vous soyez que tout le monde soit dans la rue, puisque là, c'est les libertés de chacun qui sont en cause. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose ?
On peut dire que d'une façon générale, le futur code du travail tend vers une plus de libéralisme, plus favorable aux employeurs.
Absolument.
Et c'est assez inquiétant. Nous qui avons une certaine défense des salariés en France, il faut s'activer et aller à la manifestation.
Oui pour mais pas que ce ne soit l'Angleterre ici, tôt ou tard.
Puis j'aimerais bien que les Anglais soient présents. Moi, je serai là.
Très bien. Alors, il y a quand même juste une chose. Je finis juste là-dessus. Il faut savoir que la loi, dès que ça a fuité, il y a eu quand même 900... Là, on en est à 900 000 signataires sur les réseaux sociaux contre la loi. Quelques interventions télévisées par les gens de l'extrême-gauche pour dire qu'il faut retirer la loi. Bon. Mais il faut absolument, effectivement. Par contre, j'ai pas vu d'autres mobilisations, donc c'est prévu. Le 9 mars, avec les étudiants principalement, et puis les salariés. Donc il faut absolument.
Il y a aussi le 31.
Et puis le 31
mais ce n'est que le début, mais effectivement, il faut être le plus nombreux possible le 9 mars. Voilà, je termine aussi pour dire que la manif du 9 mars, c'est aussi contre, en préalable à l'ouverture des négociations, la renégociation de l'UNIC qui aura lieu le 8 mars. Et donc là, on risque aussi ça va être une attaque frontale, de s'acheminer vers un retour à la dégressivité des allocations, enfin des indemnités pour les chômeurs, voire une baisse, bien sûr, de la durée d'indemnisation. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, rajouter quelque chose.
Oui, une petite annonce juste. Donc, c'est les 5 ans de Fukushima. Donc, ça n'a rien à voir, mais c'est l'écologie. Donc, c'est important. Donc c'est le lundi 14 mars 2016 de 19h à 22h, salle de conférence espace Jean Dary. C'est au 17 rue Léopold Ballan, dans le deuxième métro sentier, entrée libre. Il faut absolument y aller parce que voilà, le nucléaire c'est peut-être bien chez nous, mais c'est pas bien chez les autres en tout cas.
Métro Palais Royal ou Étienne Marcel.
Voilà, c'est ça.
Ok, merci à tous, cette émission se termine. Je précise que vous écoutiez jusqu'à maintenant les Shadows, donc c'était The Shadows, et donc ce sera la musique de fin. Eh bien, nous on se retrouve dans un mois, et la semaine prochaine c'est
Attaque, je crois.
Attaque.
Ouais. Bisous à tous.